Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. Nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin se mêle l'apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas. C'est selon la saison, ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'air des chansons.
Je m'appelle Léo Ferré, je suis né le 24 août 1916 à Monte-Carlo. Dans la vie, j'écris des chansons. Il y a bien longtemps, personne ne m'écoutait. C'était difficile. C'est toujours un peu difficile de vivre, pour tout le monde, pour les poètes aussi. Courte. Il est extraordinaire de penser que les hommes qui sont tous appelés à mourir, et qui le savent, s'installent dans la vie comme s'ils ne devaient jamais la quitter. C'est présomptueux, les hommes. Ils ont toujours 20 ans.
Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort, on va crier une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout. C'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Quand on est été chouette, tout tordu, avec les ans, tout est foutu. Alors on maquille le problème, on dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Léo Ferré, 20 ans, dans un petit enregistrement extrait d'un sonorama, document rare. Avec nous ce soir pour fêter les 80 ans de Léo, ce sera le titre de l'émission, Robert Belleret, qui a commis un splendide bouquin consacré à Léo Ferré. Alors, Robert Belleret, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai lu votre livre, tout votre livre, les 734 pages d'un trait ou presque en une semaine. Merci les vacances. Hein.
Une semaine, ouais. Bon rythme.
C'était les vacances, hein, sinon c'était pour penser. C'est une somme, il a beaucoup de qualités. D'abord, il est bien écrit, littérairement parlant, ce qui est une chose excessivement rare en genre des biographies. Ensuite, il a écrit sur un beau papier agréable, un petit peu style papier bip, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, avec des caractères bien lisibles, ce qui n'est pas négligeable pour 700 pages. Il est remarquablement noté du point de vue documentaire. Et puis, il est également bien corrigé, ce qui est tout aussi rare dans les bouquins. Il m'a fallu attendre la page 659 pour trouver la première faute coquille. Il y en a peut-être avant, mais je ne les ai pas vues. Et puis il y en a peut-être une deuxième dont on parlera, mais ça peut être une licence, quoi. Donc un bouquin de 700 pages avec apparemment une seule faute d'orthographe, c'est rare, ça.
Merci.
Voilà, pour situer un petit peu ce bouquin, après on va en parler beaucoup plus. Là, peut-être vous avez envie de nous dire quelque chose déjà.
De l'Est républicain.
Sur l'histoire du bouquin, pourquoi je l'ai fait.
Si l'on en croit les journaux,
je me suis lancé là-dedans un peu inconsciemment. Je voulais faire quelque chose, écrire quelque chose sur Ferré après sa mort, parce que j'avais un gros chagrin qui ne guérissait pas, et puis j'avais eu comme une dette envers lui, mais je n'envisageais pas une biographie. Et puis je me suis rendu compte, chemin faisant, que il n'en existait pas à proprement parler de lui. Et puis j'ai surtout rencontré des témoins, dont un habite près d'ici et lyonnais, que vous connaissez, je crois que c'est Maurice Angéli, mais aussi Maurice Fraud, mais aussi Catherine Sauvage, mais aussi Paul Guimard. Enfin, plein de gens qui m'ont raconté des choses qui m'apparaissaient inédites sur Léo. En me plongeant dans l'analyse plus pointue de son œuvre, je me suis rendu compte que plus on y allait, plus on l'écoutait, plus on le relisait, plus on était émerveillé. Il résistait à tous les examens. Bon, et voilà, cela dit, j'ai après fait un travail classique de biographe en réunissant de la documentation, en recherchant plein de coupures de presse, parce que finalement c'est un matériau très 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 précieux, la presse, hein. Trouver des critiques des années 40 ou 50, ça vaut tout. On a quelqu'un qui y était, qui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, donc. Et puis donc les témoins, et puis j'ai mis mes pas dans ceux de Léo en allant voir son île de Bretagne, et voir son château dans le Lot à Perdrigal. J'étais allé en Toscane de son vivant, puisque j'ai eu la chance de le connaître et d'avoir un peu d'amitié avec lui. Voilà, donc après la biographie, ça a été plus de 2 ans d'écriture, et l'idée qu'on n'arrivera peut-être pas au bout, et puis qu'on y arrive quand même.
Alors, j'ai envie de vous dire aussi que qui aime bien châtie bien, vous connaissez le proverbe, bien sûr. Oui. Votre biographie est tout sauf une hagiographie. Avez-vous découvert vos désillusions sur l'homme de tous les jours confronté au génie créatif de ce même homme, ou c'est au fil du travail que vous avez voulu
Je crois que c'est... j'ai essayé d'être honnête, c'est-à-dire quand on est honnête, effectivement, on ne fait pas une hagiographie. Si on fait une biographie, on regarde tous les aspects d'un personnage. Et Ferré, ça n'est pas que la lumière, ça n'est pas que du positif. C'est un homme, heureusement, ce n'est pas un saint, ce n'est pas un surhomme. C'est un poète, à mon avis, de tout premier plan, d'exception. Je dirais qu'il y en a, dans le siècle, il y en a 3-4 de son niveau. Cela étant dit, à côté de ça, c'est aussi un humain avec ses faiblesses, avec ses côtés des fois un peu déplaisants. Mais c'est aussi quelqu'un de généreux, c'est aussi quelqu'un de fantasque, c'est aussi quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui est un rebelle. Ça vous plaît ici, évidemment, les rebelles. Et moi, j'aime bien les rebelles aussi. Il se trouve que c'est presque l'anagramme parfait de mon nom, rebelle. C'est un mot que j'adore. Et c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui ressemble à personne d'autre. Alors, il est parfois agaçant, il est parfois contradictoire, il est souvent paradoxal, mais il ne ressemble à personne d'autre, quoi. On ne peut pas le mettre dans un moule, il ne s'est jamais laissé embrigader. Il a toujours dit ce qu'il pensait, même quand c'était maladroit, même quand c'était... Bon, c'est un bonhomme authentique.
Par rapport au poète, bon, je suis aussi... Enfin, on aura du mal à le dissimuler. Je suis très admirateur de Léo Ferré sur tous les domaines. Vous avez dit que c'est un de nos plus grands poètes, et pourtant, il ne se revendiquait pas comme tel. Pour lui, il aurait voulu être le grand musicien de son époque, mais la poésie ne semblait pas beaucoup l'intéresser. D'ailleurs, j'ai découvert aussi dans votre bouquin que finalement, sur la fin de sa vie, il a peu écrit, il a presque plus écrit des textes qu'il allait chercher.
C'est vrai qu'on se rend compte que sur la dernière période, que j'avoue, j'ai moins aimé, les 10 dernières années ou les 15 dernières années de sa création, c'est, à mon avis, pas ce qu'il a fait de mieux. Et je crois qu'il y avait une certaine lassitude, peut-être un manque d'inspiration, je ne sais pas. Plus tellement l'envie d'écrire, en tout cas. D'abord, il s'est adonné à la musique, et puis il a été recherché des textes très anciens, souvent des années 50, pour les mettre en musique pour faire des disques, parce qu'il avait quand même envie de continuer à créer et à faire des disques. Donc, il revenait à ses premières amours, puisqu'effectivement, sa première grande passion, sa passion permanente, c'est la musique. Et il se projetait plus comme chef d'orchestre, comme compositeur, que comme poète. Pour autant... il crachait pas du tout sur le qualificatif de poète, et il faisait pas sa coquette comme le faisaient d'autres.
Il a même fait sa crise quand on l'a sorti de la collection.
Oui. Mais c'était pas de la fausse modestie, là. Segers l'avait sorti de la collection Poète d'aujourd'hui, il a pas du tout aimé, ça a été un problème. Mais quand il y a eu le fameux débat un peu décevant avec Brassens et Brel, Il est le seul, au fond, à avoir envie de se laisser qualifier de poète. Les autres disent non, on est des faiseurs de chansons, on est des petits chanteurs, comme ça on fait des petits vers, on trousse des petits vers. Faut pas déconner, Brassens, il se savait un peu plus que versificateur d'occasion ou faiseur de petites chansons. Il avait envie d'être un poète, quoi. Mais il s'assumait pas tout à fait.
Allez, puisqu'on est dans la poésie, on va écouter un texte, et peut-être un des, enfin, des plus beaux, c'est difficile, hein, on n'est pas là pour faire du hit parade, surtout Léo Ferré. On va s'écouter Rimbaud, mis en musique par Léo Ferré, c'est Les Assis.
Noir de loup, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus, crispés à leurs fémurs, le sein si put plaqué de hargnosité vague, comme l'effloraison lépreuse des vieux. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume en mailloté dans ses tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leurs sièges aux rumeurs de tambours, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors. Et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue. Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever. Et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises sans lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épines.
Les Assis, Rimbaud, Ferré, donc, par les années 70 tout juste. Hein.
Un peu avant, 64.
64, hein.
Oui, la mise en musique de Rimbaud et de Verlaine, qui est un de ses sommets, à mon avis.
Oui, c'est vrai. Bah, Baudelaire est pas mal non plus.
Oui, oui.
vous dites, vous avez cité une affirmation d'Eddie Marnet en page 153, là, quant à l'anarchie de Léo, je n'y ai jamais cru tout à fait. Fondamentalement, c'était un bon bourgeois et un grand conformiste qui ne se supportait pas comme tel et qui, plus tard, n'acceptera pas son succès. Peut-on dire que la vérité de Léo Ferré est contenue dans cette affirmation ?
Oh non, ça serait quand même un peu réducteur. Moi, je retranscris là les propos d'Eddie Marnet qui sont intéressants parce qu'ils ont été amis au tout début de la carrière de Ferré, donc après, juste après-guerre, dans la fin des années 40. Ferré vient de débuter au cabaret, donc c'est très intéressant d'avoir le témoignage d'un ami, mais il se rappelle d'une époque qui remonte quand même à 50 ans, c'est une personne qui le dit, Et à mon avis, il y a une part de vérité, mais ça n'est pas la vérité, forcément.
Parce que ce qui est vrai,
mais je crois qu'effectivement, il avait, on le disait tout à l'heure, c'est un personnage à multiples facettes, et il n'est pas seulement un rebelle, il est aussi quelqu'un qui vit une vie de tous les jours le plus confortablement possible, après
politiquement,
tout.
À la fois, il s'est engagé très violemment, mais toujours tout seul et toujours sur la scène. Il a signé très peu de pétitions, il a même refusé de signer le manifeste des 121. Il a participé, on l'a presque jamais vu dans une manif.
Jamais, je crois.
Il a regardé passer de loin les manifestations, y compris celle de 68. C'est un épisode un peu pénible, ça vous l'évoquez d'ailleurs. On peut penser que ce soir-là, malgré son gala à mutualité, il aurait peut-être été plus logique pour un militant révolutionnaire de partir avec la manif et de laisser tomber le gala, non ?
Je crois que c'est facile à dire, vu d'ici aujourd'hui. 68, il vit la grande déchirure, la grande rupture de sa vie sur le plan affectif et humain. Il a vécu avec Madeleine une histoire d'amour éblouissante qui commence en 1950, qui se termine précisément en 1968. Ils sont allés vivre dans un château perdu dans le Lot, château de Perdrigal, avec plein d'animaux, avec des chimpanzés, un cochon apprivoisé, enfin une arche littéralement. Et la vie peu à peu s'est délitée, il y a eu des problèmes de quotidien. Le couple lui-même n'a pas résisté à cette épreuve de l'immense solitude. Et en avril 68, il quitte Madeleine dans des conditions que j'ai essayé de reconstituer le plus fidèlement possible, le plus précisément possible, parce que c'est assez grave. Il y a des choses dramatiques qui se passent à ce moment-là. Il y a les animaux qui meurent, enfin une partie des animaux qui meurent, pas tous.
Je vous laisse continuer.
Je voulais dire, c'est en rapport avec votre question, cette histoire de rupture, parce qu'il a la tête ailleurs. Et le 10 mai 68, moi je me trouve à la mutualité au concert, parce que je manquais rarement des concerts à la mutualité dans les années 60, j'étais à Paris à l'époque. Le 10 mai 68, il a sûrement pas la tête tellement avec les événements, avec ce qui se passe au Quartier Latin.
Et pourtant, il va chanter des chansons révolutionnaires, et pourtant, manifestants le reconnaissent sur le...
Il est au bistrot du coin devant la mutualité, là, en attendant le début du spectacle, et puis il y a les manifestants qui arrivent pour ce qui sera la grande nuit de 68, la nuit des barricades, le 10 mai, faut s'en souvenir. C'est là où les voitures brûlent par dizaines... rue Gay-Lussac, tout à côté. Il les voit passer avec le drapeau noir, le drapeau rouge. Il dit « Je suis ému aux larmes ». Les manifestants lui disent « Allez, ferrez avec nous ». Il dit « Ben non, je peux pas, faut que j'assure mon gala ». C'est un gala pour les anarchistes, quand même. Il y va, il le fait. Et puis après, c'est vrai qu'à minuit, il dit pas « Où est la manif ? J'y vais ». C'est pas son caractère. Donc, je dirais que ça aurait un côté
un peu... C'est emblématique de son comportement dans toute sa vie.
Oui, c'est un individualiste. Vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui, de sa vie, n'a jamais participé à une manifestation.
Et puis on pourrait peut-être même regretter que s'il a participé à des manifestations étant très jeune, c'était plutôt celle des Camelots du Roi.
Oui, je ne crois pas qu'il ait été jusqu'à participer à une... Je suis même presque sûr qu'il ne l'a pas fait. Pour autant, il avait, semble-t-il, pour autant qu'on puisse le reconstituer, des sympathies qui étaient plutôt conservatrices, peut-être même un peu monarchiste, mais ça n'allait pas plus loin que ça, des vagues sympathies, peut-être des fréquentations de fac. Il n'a jamais été... c'est un contemporain absolu de Mitterrand. Il y a quelques semaines de décalage. Ils font leurs études simultanément à la même faculté de droit et à Sciences Po. Ils sont tous les deux inscrits dans ces deux endroits. Oui, pour autant, ils ne se connaissent pas. Mais Mitterrand, on sait maintenant, aujourd'hui, depuis peu, qu'il s'est engagé, qu'il s'est mouillé, pour parler vulgairement. Ferré, lui, non. Je ne crois pas qu'il ait... Mais c'est un type conformiste. Et c'est un type qui, là, regarde passer les révolutions. Enfin, ce n'est pas une révolution, mais c'est le Front populaire. Ça a quand même l'importance.
Oui, ça fait un petit peu mal.
Ça ne l'intéresse pas. Mais c'est parce que c'est un fils à papa. Il est le produit de son éducation. Il a été chez les frères des écoles chrétiennes.
Pourquoi jusqu'en 1946, il est assez grassement entretenu par son père et d'un seul coup, ça s'arrête, semble-t-il ?
Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il vole de ses propres ailes.
Il ne s'est pas fâché, non ?
Avec son père, ça s'est toujours mal passé, dès le plus jeune âge. Du moins, Ferré le raconte comme ça. Parce que Ferré voudrait faire la musique et son père lui dit pas question de faire le conservatoire. Et puis surtout parce que le père le met chez les frères des écoles chrétiennes dans une pension religieuse donc à Bordighera, de l'autre côté de la frontière, en Italie, pendant des années là qu'il va vivre très très mal, qu'il appellera ses années de prison, et qu'il racontera en détail dans un bouquin, le seul roman qu'il ait écrit, qui est un roman tout à fait autobiographique, qui s'appelle Benoît Misère. Et là, il vivra très très mal ces années de pension, avec la messe à 5h30 ou 6h du matin, avec une discipline de fer, avec des religieux qui se livreront sur lui à des attouchements. Oui, je veux dire que ça porte un nom, c'est un viol, ça. Hein, je crois que ça a modelé son inconscient, ça lui a créé une culpabilité, une souffrance qu'on retrouve toute sa vie. Peut-être que c'est grâce à ça qu'il a été poète. Mais il y a eu un déséquilibre, il y a eu des épreuves là très pénibles. Donc avec son papa, ça se passe jamais très bien. C'est vrai que pendant la guerre, il vivote pas trop mal, il laisse là encore passer les événements, il est à Monaco, mais il se comporte pas mal, entendons-nous, hein, il ne collabore
enfin,
pas.
La conscience politique semble lui être née après 48, par
oui, là, oui, oui, 40, ouais. Oui, c'est ça. C'est son arrivée à Paris, quoi. Il arrive à Paris en 46. Il passe au bœuf sur le toit, et puis après il va passer au Code Libette, un tout petit, c'est même pas un cabaret, c'est une cave paumée sous un hôtel dans lequel on chante sur une caisse à 20 retournées, hein, devant 20 spectateurs. C'est des gens intéressants, il y a bouche à oreille qui va fonctionner, mais enfin c'est vraiment des débuts difficiles. Et là, effectivement, il a des rencontres heureuses, il rencontre des anarchistes espagnols, il va écrire pour eux le Flamenco de Paris. Et puis il va rencontrer Madeleine, donc c'est la femme dont on parlait tout à l'heure, qui elle est une rebelle aussi, et va peut-être même, à mon avis, c'est une des thèses que je dis dans le bouquin, enfin il n'y a pas de thèse, mais enfin c'est une des pistes du moins que je souligne, c'est que Madeleine a dû avoir une influence sur sa conscience, disons-nous.
C'est elle qui a donné une conscience politique.
Alors. C'est elle. Il y a aussi Maurice Froh. Il y a aussi Maurice Froh qui occupe une grande...
Il apparaît plus tard, non, lui ?
Il apparaît à la fin des années 50, 56, 57. Et lui, c'est un anard pur sucre, alors un révolté absolu, une tête brûlée même, parce qu'il est allé s'engager, il est allé faire la guerre d'Indochine. Et c'est un type avec qui Ferré va avoir une sympathie qui va devenir une amitié très très forte et très longue. Et Maurice Froh est un type qui est, grâce à Ferré, a écrit deux bouquins dans La Blanche chez Gallimard, qui est donc un écrivain qui maîtrise la langue et le vocabulaire et qui raconte formidablement. C'est un témoin qui a été pour moi très très précieux, quoi. Et Maurice Froh, c'est un rebelle, c'est un révolté, et c'est quelqu'un qui a une influence, parce que c'est un personnage fort, qui a une influence sur Ferré aussi.
Alors, puisqu'on a dit un petit peu de mal de sa difficulté à s'engager, on peut dire aussi un peu
là,
bien
là, on
de
est
sa,
un peu maso, parce
des,
qu'on
des périodes
gratte...
où il a fait fort et où il s'est mouillé.
Bien
quand
sûr.
Il dénonçait la torture en 62 dans les temps difficiles, voilà. Il n'y avait pas grand monde sur une scène pour dire
bien
ça.
Sûr.
Quand il disait la cause du peuple, achetez-la alors qu'elle était interdite, il savait qu'un peu comme Sartre, il s'exposait à être mis en taule, on le ferait, on le ferait pas, mais enfin, il a pris les risques.
Oui,
il
oui.
a pris les risques d'être descendu et il le savait à beaucoup de moments. Quoi.
Oui.
Donc on ne peut pas lui voler son courage politique, même
absolument.
S'il n'a pas manifesté.
Absolument, il savait qu'en faisant certains disques, il ne serait jamais programmé sur les radios. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que c'était une vraie censure, c'était pas l'autocensure. Sur les radios, c'était la censure. Et il y avait des chansons interdites de Léo Ferré, c'était pas du folklore, elles étaient franchement interdites. Elles passaient jamais sur les antennes. Et il en faisait, en veux-tu, en voilà. On a dit les temps difficiles,
oui,
la vie moderne.
Il y en a même qui sortaient pas des disques, qui sortaient pas de chez Barclay.
Oui, même Barclay, même avec Barclay, il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Avec Cocatrix, la mafia, il écrit la mafia, il passe plus à l'Olympia. Non, c'est un type qui est courageux dans le sens où il n'aime pas être brimé, il aime bien dire ce qu'il a envie de dire. Moi, ça, je dirais que ça me suffit, ce type de cohérence-là. Tout le monde ne peut pas être militant, tout le monde ne peut pas être un manifestant, tout le monde ne peut pas être un pétitionnaire. C'est déjà pas mal
et
d'avoir...
Néanmoins, avec les anarchistes, il faut être prudent, parce qu'il y a des anarchistes de droite et des anarchistes
oui,
de gauche.
Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, là, c'est un terrain où il y a la frontière, effectivement... ténu. Ouais,
on peut quand même le classer dans les anarchistes de gauche. Sans
oui, moi, oui. Moi, je pense, on a parlé politique quelquefois, il votait pas, mais s'il avait voté, il aurait quand même plutôt voté à gauche, quoi, bien sûr.
Je vous propose d'écouter un document, puis on en parle tout de suite après.
Thank you.
Alors la qualité sonore était mauvaise, mais elle était mauvaise aussi dans la salle ce soir du 17 décembre 1976 au Palais des Sports de Gerland à Lyon, donc un enregistrement amateur, on peut dire. Je l'ai choisi quand même parce qu'il illustre bien ce que les gens ne savent pas toujours quand ils n'ont pas assisté à certains concerts de Ferré, c'est-à-dire les difficultés qu'il avait avec le public. Quelquefois, il a des récitals où il était sifflé, hué, insulté, et il se battait, il se bat aussi.
Là, il faut distinguer les époques. Alors là, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un document amusant, mais qui est quand même pas représentatif de ce qui se passait tous les soirs, heureusement. C'était au Palais des Sports de Lyon, donc où il y a une acoustique déplorable, et c'était son spectacle, toute la musique qu'il avait donnée au Palais des Congrès à Paris, où il dirigeait un grand orchestre, un orchestre symphonique, et il y avait Beethoven, Ravel au programme, et puis ses chansons. Là, je crois qu'il était en train d'interpréter Moussès Sain. C'est vous qui l'avez reconnu, parce qu'il faut le savoir. Et c'était une catastrophe à cause de la sono. Cela dit, il a réussi malgré ça à reprendre les choses en main, et je me souviens que j'y étais. Moi, j'étais journaliste au Progrès à l'époque, et j'avais fait le papier ce soir-là, dans la foulée du spectacle. Et la première partie avait été désastreuse à l'entracte. Moi-même, je me demandais si j'allais pas partir. Et puis, la deuxième partie, on a réglé un tout petit peu mieux la sono. Et puis, le public était là et à le soutenir. Et ça s'est finalement bien terminé.
Il faut dire d'un mot que c'était un pari un peu fou. Il y a 3, 4, 5 000 personnes, je ne sais plus, dans ce studio. Ils prenaient un orchestre symphonique, tout ça, dans le Palais des Sports de Gerland. C'était un pari fou, quoi.
C'était un pari fou, oui. Au Palais des Congrès à Paris, je crois que ça s'était bien passé parce que l'acoustique est bonne. Au Palais des Sports, ce n'était pas le cas. Puis c'est vrai que c'était peut-être un peu boursouflé comme programme, de mettre à la fois Beethoven, Ravel, des longs monologues. Je sais plus s'il y avait la chanson du mal-aimé, je crois pas. Mais il y avait ces longs monologues à lui. Ça avait de quoi déconcerter. Pour autant, ça s'est quand même, on le dira jamais assez, bien terminé la soirée. Ça a fini presque en triomphe alors que c'était parti pour être une débandade. Oui, alors, si rapport avec le public, vous disiez, oui, siffler, conspuer à certains moments, mais sur une durée quand même très courte là. Hein. C'est le début des années 70, c'est le retour de flamme de 68 où il conquiert un nouveau public, où il a d'un seul coup un public qui rajeunit de 20 ans. Les enfants de 68, ça devient son public. Et puis, bon, bah, c'est une histoire d'amour qui, avec ses hauts, ses bas, ses moments d'embellie, et puis ses crises. Et les crises, elles viennent des ultra-gauchistes qui lui reprochent de ne pas être assez cohérent, de faire payer l'entrée à ses concerts. Enfin, bon, on connaît le discours un peu schématique.
Rolls Royce, quoi.
Ce qui était scandaleux, parce qu'il n'a jamais eu de Rolls.
Ben, pas tant que ça. J'ai découvert sur une photo de votre bouquin qu'il était...
Il avait une Jaguar, ouais. C'est pas pareil, quand même. Hein. Là, c'est une super voiture de riche, la Jaguar. C'est une très belle voiture, de luxe. Mais c'est quand même pas la Rolls qui est un monument, quoi. Un symbole fou. Et puis, il s'en cachait pas, la Jaguar, il l'avait, il la garait. Mais c'est vrai qu'il aimait bien les grosses voitures. Il a même eu, je le dis, parce que je l'ai découvert, il n'y a pas de raison de le taire, il a eu une Ferrari à un moment. La Ferrari, là, c'est presque comparable à la Rolls. C'est pas tout à fait non plus, ça n'a pas la même image. Mais bon, c'est une voiture là, de très grand luxe. Il y a cette contradiction, mais enfin, c'est absurde aussi de dire il faut que les concerts soient gratuits, quoi. Je veux dire, c'est une utopie un peu.
Non, mais il y avait un acharnement sur lui, plus que
et
sur
du coup,
d'autres,
absolument.
Qui aurait pu être tombé aussi bien et sur Brassens, qui faisait autant d'argent que lui, et qu'on n'a jamais
mais on n'a pas du tout, on n'est pas jamais pris à Brassens. Et il faut dire que Jean Edernalier a joué un rôle à travers l'Idiot International. Très, très important en disant, en gros, hein, en schématisant, j'ai pas retrouvé l'article dans lequel il appelait un petit peu, non pas au meurtre, mais à la manif contre Ferré, mais en gros il disait, allez-y, il faut lui casser la gueule, il faut l'empêcher de chanter, et il y avait tous les... Moi, je me souviens qu'à la Bourse du Travail, notamment à Lyon, chaque concert, il y avait 10, 15, 30, 50 jeunes qui venaient pour mettre le souk, quoi. Alors, des fois, ils rentraient et puis ils se calmaient. Des fois, ils continuaient à perturber pendant tout le spectacle. Leur Ferré s'engueulait avec. Mais d'autres fois, dans d'autres endroits, ça s'est plus mal passé. Il y a eu des projectiles, des boulons lancés sur scène, des morceaux de rail, des tomates. Enfin, il y a eu des alertes à la bombe. Des charges de flics, enfin, il y a eu souvent des problèmes graves, mais ça a duré. Pour lui, c'était tellement long dans la durée qu'il a failli raccrocher. Hein. Maurice Fromm a dit à un moment, Il m'a dit, Ferré lui avait dit, j'en peux plus, je crois que je vais arrêter.
Psychologiquement, ça devait être très
dur. Il craquait, il craquait.
Et en plus,
surtout d'être construit par des jeunes qui étaient, qui étaient des gauchistes. Quoi.
Idées, quoi.
C'est ça. Et c'était très très dur pour ça, je crois.
Il continuait quand même, il se battait, il continuait ses textes dans un bordel, je pense au Gala du Monde Libertaire, qui était presque systématiquement, au début des années 70, massacré. Quoi.
Ouais.
On se disait, à la fin, c'est plus la peine d'y aller, il y a Ferré, il va encore aller voir la merde, on va pas pouvoir écouter une chanson correctement.
Mais il restait jusqu'au bout, il se battait. Sur scène, il faut dire un mot, c'était quand même un des monstres sacrés. Sur scène, il occupait le terrain comme pas beaucoup, hein. Il y a Brel, il y a Piaf, il y en a d'autres. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est comme ça qu'il arrivait à reprendre en main les situations les plus désespérées. Et c'est ainsi qu'il a aussi continué à chanter très tard, peut-être trop tard, peut-être un peu trop vieux. Moi, j'aurais aimé qu'il arrête un tout petit peu avant, 3-4 ans avant, peut-être. Les dernières fois, il avait souvent des trous de mémoire. Mais là, le public l'aimait tellement, il y avait une telle complicité que les gens lui soufflaient. Et moi, je me souviens avoir soufflé des vers des poètes de 7 ans ou d'Aragon ou même de ses propres textes parce que, il était fatigué, il en avait un... Mais il faut dire aussi, là encore, c'était ça, un peu son côté excessif, il donnait un récital de 3 heures. C'est-à-dire qu'à 70 ans, il tenait la scène 3 heures avec des monologues qui duraient parfois 20 minutes. En sortant de scène, d'ailleurs, à minuit, 1h du matin, il partait au restaurant et on allait souper. Ici, je l'ai fait quelques fois avec lui, jusqu'à 3-4 heures du matin. Quoi. La vie d'artiste, il l'a menée jusqu'au bout, avec une santé quand même assez, assez sidérante.
Alors, on fait une petite pause musicale, on écoute une chanson d'un chanteur qui lui rend hommage, il y en a beaucoup, vous allez me dire, celui-là est bien dans sa filiation, c'est « Ces larmes que tu tires » par Michel Orion.
Ces larmes que tu tires, comme on tire le vin, cette mélancolie dont tu fais les refrains. Promène ta rumeur au hasard des chemins, en clamant tes colères, tiens par la main. Cette musique morte que tu ressuscites, en te foutant pas mal des modes ou des critiques. Tu te la sors des salons, on veut te lâcher. Sors loin des moules pour l'afficher. 75 à pas de loup, tu nous offris ta démesure. Perché un peu comme un hibou, ta folie donnait sa mesure. Dans une verve lapidaire, tu as lancé ton cri de guerre. C'était aussi un cri d'amour, tes détracteurs jouaient les sourds. Tu les dérangeais au grand jour. Battu en brèche dans un acharnement suspect et dans une attitude fraîche, leur discrédit ils t'ont jeté. Toi tu faisais de la musique et ils argumentaient tes chiniques. Cassant la gueule à la critique, tu défiais la statistique. Et découvrant ton Amérique, ton délire devenait lyrique. Lyrique.
contrevents et critiques, tu perpétues ton spleen. Au rythme des remous de ton humeur chagrine, meurtrier et meurtrie, tu passes au hasard, laissant de ton sillage des roulements d'espoir. Et ce chagrin caché qui te hante tout bas, ton destin inventé, il te va malgré toi. Quand j'ai mis la marée, où t'en veux ta mémoire, au gré des paradoxes, tu chantes l'espoir. Aujourd'hui, quand tu te produis sans orchestre, faute de crédit, du fond de ta mélancolie, tu nous chantes la nostalgie. Tous les enfants de 68, cela nous fait comme un déclic. Cœur au fond des larmes, et ça dérouille un peu nos âmes. Nos âmes. La musique souvent le prend. Dans ses moindres détours, appelant la marée, le temps, sa mémoire. Au gré des paradoxes, où il chante l'espoir. Il n'a pas de drapeau et va sans foi ni loi. Le prince de Monaco n'est pas celui qu'on croit.
Michel Orion, c'est l'arme que tu tires, un hommage à Léo Ferré. Nous revenons à Léo Ferré avec Robert Belleray, avec nous ce soir, l'auteur de ce magnifique bouquin, une grosse biographie sur Léo, sans doute le plus complète à ce jour existante. On va vous parler peut-être un peu de l'enfance.
Est-ce qu'on a dit que c'était chez Actes Sud ? C'est non, comme si un éditeur que j'aime bien.
On
n'a
pas dit que c'était chez Actes Sud.
Actes Sud, ouais. Qui est à Montpellier. Ouais.
Il y a pendant qu'on parle de
qui
ça.
Qui est à Arles.
Arles, premier contact qu'on avait pris, Robert, vous avez dit, il a lu tout le bouquin, c'est sûrement le premier qui vous interview et qui a lu le bouquin en entier. Alors, il a dit non, je ne suis peut-être pas le premier qui l'a lu en entier, mais je suis peut-être le premier qui l'a lu en entier et qui l'a payé de ses deniers.
Ah oui, ça, oui, peut-être. Oui, oui.
Bon, ça, pour la petite histoire. Ouais. Non, ce n'est pas un reproche, hein. Je pense qu'on n'a pas à être systématiquement arrosé de...
Mais non, mais c'est le service de presse, là, il y a eu un oubli. Oui.
Non, non, ah. Voilà. De toute façon, je l'aurais acheté. Bon, oui, vous faites beaucoup, vous travaillez beaucoup sur un bouquin qui s'appelle Venons à Misère, qui m'a toujours posé problème, parce que c'est vrai que c'est sûrement biographique, il évoque son enfance, et à la fois c'est un roman. Alors est-ce qu'on peut porter crédit à tout ce qui est raconté, en particulier des choses qui sont quand même assez graves, ou est-ce qu'il faut tenir compte de la part de la littérature et du fantasme là-dedans, et se dire que le petit Léo n'a pas connu tout ce qu'il raconte?
Il faut en tenir compte, bien sûr, dans la forme, mais sur le fond, il a dit plusieurs fois, dans des interviews dont j'ai retrouvé la trace écrite ou sonore, que rien n'était inventé, que tout ce qu'il y avait dans le bouquin, c'était la vérité, qu'il avait juste changé quelques noms et quelques dates. Donc c'est lui qui le dit, qui le redit, qui insiste, qui persiste, qui signe. Hein. D'une part. D'autre part, quand on compare, quand on recoupe avec les épisodes de sa vie, ça colle. Il y a des équations parfaites, hein, les dates. Il y a un décalage de 2 ans. Dans la réalité, Léo Ferré est né, on disait tout à l'heure, il aurait eu 80 ans avant-hier. Il est né le 24 août 1916. Dans le roman, il dit le 26 août 1914. Il intervertit deux chiffres. Donc, Et comme ça, tout le long, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines dont il parle dans le bouquin, j'ai pu retrouver leurs traces. Et on se rend compte qu'à d'infimes détails près, c'est vraiment le profil de personnage réel. Donc pourquoi ne pas le croire quand il va jusqu'au bout de sa confession, qui raconte effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, les attouchements dont il a été victime, et dont il m'a parlé à moi personnellement, dont il a parlé à François Stravlet, qui en parlait dans un bouquin très intéressant qui s'appelle « Dis donc Ferré », dont il a parlé à plusieurs interlocuteurs, avec à chaque fois des détails très précis. Donc là, moi, je ne crois pas du tout que c'est de l'invention littéraire. En revanche, la mise en scène, la mise en forme, bon, bah oui, il y a la patte là de l'écrivain.
Parce que ça va loin quand même. Il évoque une histoire, bon, qu'on peut lire dans des tas de littérature spécialisée, mais où enfant il a été séduit par un vieux surveillant général en robe.
Oui, enfin séduit, oui, séduit avec séduit beaucoup de guillemets.
Séduit et séducteur aussi, ce qui ne manque pas d'ambiguïté. Enfin, on a l'impression que le petit Léo, il prenait bien du plaisir. Hein, il explique qu'il allait fermer les fenêtres pour qu'on ne les voit pas. Et, alors bon, tout ça aujourd'hui, ça mènerait le vieux curé en prison, bien qu'il pourrait y en avoir beaucoup qui officient encore.
Ouais, c'est très actuel. Comme sujet
très
là.
Actuel, c'est un truc assez trouble et bizarre.
Mais oui, mais l'enfance, c'est pas quelque chose de simple et c'est pas quelque chose de forcément limpide.
Ferré, il dit... Ce qui est un peu trouble aussi, c'est que ça n'a l'air de ne pas avoir eu d'incidence sur sa vie sexuelle plus tard. Souvent, les séductions enfantines comme ça, bon, c'est que les rapports homosexuels dans l'enfance déterminent des comportements dans la vie adulte, ne serait-ce qu'au niveau de la compensation. Lui, par contre, à ce qu'on en sait, n'a pas été intéressé par l'homosexualité au niveau adulte. Il n'a pas beaucoup parlé non plus. Il a défendu celle de Verlaine et Rimbaud. Il s'est positionné comme ça, d'une manière un peu théorique.
Oui, c'est pas un sujet qui le passionnait.
C'est un sujet qui l'emmerdait un peu.
Qui l'emmerdait un peu, oui, pour tout dire. Oui, c'est vrai. Qui l'occultait un peu. Mais quel rôle ça a joué, on ne sait pas. Bien malin qui pourrait le dire. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Mais je crois que ça a eu des incidences sur sa psychologie, y compris sans doute sur son comportement amoureux, sur son rapport avec les femmes. C'est presque un infirme vis-à-vis des femmes quand même. Il a un petit handicap, c'est qu'il perd ses cheveux très, très jeune, donc il a une calvitie précoce. Il est un peu mal dans sa peau, il est timide. Quand il est étudiant, il n'a qu'une idée, c'est de rencontrer des jeunes filles, aller danser, avoir des amourettes et des grandes, ou même une grande histoire d'amour. Il n'en a pas, et il en souffre, et il s'aigrit, et il le dit. Il le dira après dans des chansons, dans des textes, longtemps, longtemps après, dans des interviews. Il ne s'en cachera pas. Donc il n'a pas une approche simple des femmes.
Et pourtant, il séduit facilement Miss Monde. Enfin, là, vous êtes un petit peu sarcastique.
Miss Monde, oui, je force le trait. C'est vrai que sa première épouse, c'est un mariage d'amour. Enfin, dans la mesure où c'est une histoire de séduction, c'est un coup de foudre, c'est une fascination. Il se marie, et ça c'est très peu connu, moi j'avoue que je l'ignorais. Il se marie une première fois en 1943 avec une jeune parisienne qui était réfugiée dans le Midi avec sa famille pendant la guerre. Et c'est une fille magnifique, des yeux clairs, des cheveux blonds longs. Et quand on voit la photo du mariage que j'ai pu voir, qui est là, c'est pas dans le bouquin, mais que j'ai pu consulter, les photos du mariage, c'est sidérant, parce qu'on a Ferré qui a ses cheveux comme ça, un peu absents sur le front, l'air un peu étriqué, il porte un habit, il a des lorgnons sur le bout du nez, c'est presque le professeur Tournesol, en forçant le trait, on pourrait dire ça, et à côté, on a une superbe vamp, une fille grande, élancée, blonde, une chevelure délirante, et une robe à fourreau en satin blanc. Enfin, c'est un couple pas du tout assorti. Ce qui est très amusant, c'est qu'il faut même savoir que cette première épouse de Ferré, qui s'appelait Odette Schunk, faisait des photos pour ce qui ne s'appelait pas encore la publicité, pour la réclame, et elle a posé pour l'ambre solaire. Vous savez, les vampes là, en maillot de bain, une pièce des années 50, ben, elle a posé. Donc, un coup pas assorti, mais visiblement un vrai coup de foudre de la part de Léo. Et puis bon, sur le plan intellectuel, je crois que ça collera pas. Le couple va assez vite se déliter et ils vont se séparer à la fin des années 40.
Sur fond de désillusion économique de la part de madame, quand même.
Oui, ça a beaucoup joué. C'est la mouise, la bohème, c'est bien joli dans la littérature et a posteriori, mais c'est difficile à vivre et elle le vit très mal. Et ils vont faire une tournée, ils partent faire une tournée, Léo, aux Antilles, qui est proposée à Aznavour. Aznavour refuse, lui il va, c'est une vraie galère, il reste 6 mois aux Antilles, il n'a plus de quoi payer son billet de retour. Et puis là, c'est au retour que j'ai pas trop gratté, j'ai deviné des choses que j'évoque pas, même d'ailleurs, dans le livre, sur ce qui a pu se passer entre eux, avec d'autres personnages, peut-être aussi. Bref, au retour, ça se passe mal.
Elle avait trouvé une autre compagnie.
Peut-être, oui, peut-être, il y a peut-être ça, oui. Elle s'est remariée, elle. J'ai retrouvé la trace de son remariage. Elle s'est remariée avec un citoyen suédois. Et peut-être qu'elle vit encore, peut-être, ça serait un témoin extraordinaire.
Revenir un court instant sur Léo Ferré et l'homosexualité. Vous n'avez pas évoqué nulle part dans votre bouquin un fait dont je ne sais plus où je l'ai entendu, mais qui veut que lorsque Charles Trenet a été incarcéré dans les années 50 pour détournement de mineurs masculins, ouais. Ferré a fait, le jour où ça s'est passé, dans son spectacle, dans un casino, je ne sais plus trop où, a improvisé un texte en hommage à Trenet. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ?
Jamais. Alors là, on l'apprenait. On en apprend. Ouais. Heureusement.
Et c'est quand même important. Pourtant, parce que c'est une des rares prises de position publique qu'il ait pris, enfin, en dehors de son soutien à Verlaine Rimbaud et à leur histoire, par rapport à l'homosexualité.
Bon, enfin, l'histoire de Verlaine Rimbaud, c'est pas ce qu'il fascinait chez Verlaine et Rimbaud. Hein. Ils s'en accommodaient de leur histoire, mais bon, c'était pas non plus une fascination pour le couple maudit. Mais Trenet, non, j'ignorais. Ce que j'ignore pas, évidemment, et je l'écris souvent, c'est que l'admiration absolue qu'avait Ferré pour Trenet, qui était vraiment son idole, le mot n'existait pas encore, mais dans les années 30, Ferré était fasciné par Trenet. Il a pu le rencontrer dans les années 40, lui soumettre ses premières petites chansons. Et puis Trenet est allé l'écouter quand il est passé au Bœuf sur le Toit. Et l'admiration de Ferré pour Trenet est restée constante. De là à faire une manifestation de solidarité sur scène pour Trenet, non seulement je l'ignorais, mais ça, j'avoue que ça m'interloque, ça me surprend.
Mais faudrait que je retrouve ma source. Ouais, ouais. Ça doit être dans une cassette, quelque part, un enregistrement de radio.
À mon avis, ça devait y avoir quelque part un peu de provocation quand même de sa part.
Je ne sais pas si c'est pas Chancel qui lui avait fait parler de ça.
Ah oui.
Bon, on écoute quelque chose. Il nous reste plus guère de temps. On cause aux causes et on aura
un peu le temps passe vite.
Pour nos auditeurs, allez, un petit document sonore dont on parlera un tout petit peu et puis on abordera d'autres sujets après.
Vos yeux, il faut continuer à fondre la mine. Vos yeux, regarde. Vos yeux, regarde. Regarde-les, ces suicidés qui déambulent, boulevard des Titans à Paris, samedi, regarde! C'est au vert, vas-y camarade, sur l'autoroute, il y a des sons de coureurs en recours et qui ferment, et qui rongent leurs freins malades. La troisième, regarde! C'est l'automne, vas-y, camarade. C'est l'automne, vas-y, camarade. La douche. Quand ils sont verts, on dirait la mer sans courage. Regarde! Monsieur Jadis, regarde! Regarde-les, ces suicidés qui déambulent le boulevard des Rital à Paris, samedi. Vos yeux, regardons.
Bon. Alors, c'était Tête Beaux Yeux, tu sais. Alors, bon, pour la petite histoire, c'est un enregistrement du 6 mars 1974 à l'Opéra Comique. Alors, je voulais passer ce soir parce que vous écrivez quelque part dans votre bouquin que c'est un inédit de 84, quoi. Alors,
ben
je
oui,
crois
mais...
que c'était une surprise pour vous.
Oui, 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 tout à fait. Moi, je n'avais pas le souvenir du tout qu'il avait donné ça sur scène. Ça conforte l'idée que sur la fin de sa vie, il n'avait plus envie d'écrire. Il a peu écrit, puisque même ce texte-là... Alors, c'est pas dans sa manière des années 70 du tout, hein, comme écriture. Tête Beaux Yeux, tu sais, je trouve que c'est un texte un peu faible. Et je le croyais écrit dans les années 80. Eh bien, bon, ça conforte bien l'idée qu'à la fin, il écrivait plus beaucoup. Il composait, il écrivait plus beaucoup.
Une autre, petit problème technique aussi, une autre chose qui m'a un peu surpris, vous, parce que ça, vous avez dû le vivre concrètement, vous écrivez que le disque Amour Anarchie est paru dans une double pochette. C'est pas vrai, il y a eu deux disques à quelques mois d'intervalle au départ.
Oui.
Vous avez dû vous référer au bouquin de Lacou pour écrire ça.
Oh
non,
non, mais le bouquin de Lacou, bon, il existe, on ne peut pas le gommer, mais enfin bon, je ne voudrais pas m'étendre dessus. Mais non, là je me réfère à ma discographie, tiens, je viens de les classer tout à l'heure. Oui, mais oui, mais non, mais là vous ne me surprenez pas, volume 1, volume 2. Et je dis que c'est...
C'est un double.
Non, mais alors c'est un problème de formulation, parce que ça a été mis en double, attention, entendons-nous.
Oui,
hein. Oui, c'est ça, mais la pochette qui est devenue célèbre, c'est celle en noir et rouge, et qui se présente comme un double album. Au départ, ils sont parus d'ailleurs à quelques mois.
Oui, il y en a un qui doit être de février.
Ah, j'aurais dit quelques semaines.
Mai-juin.
J'aurais dit quelques semaines, ouais. Bon, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que ça reste maintenant comme un double album, quoi, dans l'imaginaire. Ça a du mal à rester, puisqu'avec l'histoire des CD, des rééditions en compact disque, bah, le découpage, il n'est plus le même. Alors, Amour Anarchie, on ne le retrouve pas, d'ailleurs. Bon.
Ouais, qu'est-ce qui vous fait penser que la photo de « Il n'y a plus rien », la pochette originale, est dans la région lyonnaise ?
On me l'a dit, mais je ne l'ai pas vérifié. On me dit que c'est dans un bistrot de Lyon.
On y voit Ferré roupillant, appuyé contre un bord de table en dessous d'une pendule avec un verre de Perrier sur la table.
On m'a dit que c'était, je ne voudrais pas me dire de bêtises, mais on m'a dit que c'était, je crois, chez Paul, rue Tupin. Ouais. Mais sauf sous réserve d'inventaire.
L'horloger de Saint-Paul, peut-être.
Et où que ce soit, elle est belle, cette photo.
Il nous reste quelques minutes, on va essayer d'évoquer des choses un peu plus sérieuses. Ferré, retardataire, il a fait des enfants bien tard.
Ouais.
Comment expliquer ça, lui qui était si progressiste que dans sa vie privée, personnelle, la conscience politique, on a vu, lui vient à 30 ans, le premier enfant à 54 ans.
Là, je crois que c'est pas forcément un choix. Je pense qu'avec Madeleine, ils auraient voulu avoir des enfants, ils n'en ont pas eu, ils n'ont pas pu en avoir. D'où ces enfants de substitution qui ont été les animaux et qui a été Pépé, la petite chimpanzée qu'ils ont adoptée à l'Alhambra en 61 et qui les a accompagnés 8 ans, qui était comme un enfant, vraiment comme un enfant, qui dormait dans leur chambre, qui mangeait à table. Et qui les a poussés à aller vivre dans une île, puis dans un château perdu au milieu des bois. Enfin, ça, Pépé a dirigé leur vie un peu. C'était un enfant substitution. Et je pense que s'il y avait Pépé, s'il y a eu tellement d'autres animaux, je disais une arche tout à l'heure, le terme n'est pas excessif. C'est une histoire inouïe en elle-même, leur aventure animalière du Lot. Hein. Ils ont eu jusqu'à une quarantaine d'animaux.
Oui,
hein.
C'est intéressant à lire familier. Dans le bouquin. C'est bien restitué.
Oui, c'est bien restitué grâce à Madeleine qui écrivait, racontait sa vie quotidienne sur un magnétophone et sur une idée de Léo Ferré, de Léo. Et ça a donné lieu à un petit bouquin qui s'appelle « Mémoire d'un magnétophone » où là, on a le compte-rendu quasi exhaustif du quotidien du couple, quoi. Et c'est effectivement des années, moi, qui m'ont passionné parce que c'est là où il écrit, à mon avis, ses plus belles choses, les années 60, le début des années 70, parce que c'est sur la lancée, il va faire des disques avec des matériaux qu'il aura préparés à Perdrigal. Donc là, c'est le plus fort, à mon avis, de sa vie, quoi. Hein. Oui, on disait, votre question c'était sur les enfants, donc voilà, je crois que c'était impossibilité, je crois que c'est Madeleine qui ne pouvait pas en avoir, toujours est-il que le couple n'en avait pas, et qu'après, Léo, la dernière partie de sa vie, s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui.
Vous dites très peu de choses sur les conditions de sa rencontre avec Marie Ferré, quand même.
Ouais.
Enfin, ça va peut-être faire partie de ma dernière question, ça, finalement, puisqu'on arrive au bout.
Oui.
Est-ce qu'on peut attendre de vous un codicille ou un complément, voire posthume, à ce bouquin ? Parce qu'avec tout ce que vous n'avez pas eu le droit de dire ou tout ce que vous n'avez pas osé dire pour rendre le livre possible, ou il n'y aura pas de suite ?
Non, parce que je ne me suis pas auto-censuré dans des grandes largeurs. Donc j'ai pas de non-dit, j'ai pas du tout envie de compléter. Il y a 780 pages, je crois que c'est déjà beaucoup. Et puis en plus, la dernière partie de sa vie, comme chez tous les êtres humains, chez tous les créateurs, c'est pas forcément la plus fructueuse, la plus intéressante.
Je parle du reste de sa vie, il y a beaucoup de choses que vous avez laissées dans l'ombre, on a l'impression, dans sa vie personnelle. Catherine Sauvage, il ne s'est jamais rien passé entre Léo et Catherine.
Non, à ma connaissance, non.
Non. Oui, je sais pas.
Non, à ma connaissance, non.
Ils ont été tellement proches.
Ils ont été très proches, mais s'ils ont eu une aventure, ça regarderait qu'eux. Voilà. Mais je veux dire que là, ça n'apporterait rien de le dire. Mais franchement, je ne l'ai pas rencontré. Je me suis aperçu que Catherine Sauvage avait une passade avec Jacques Brel. Avec Ferré, je ne crois pas. Je crois pas. De toute façon, s'ils l'ont eu, ils ont préservé ça. Donc,
et les conditions de sa rencontre avec sa dernière épouse.
Bon, là, j'ai volontairement pas insisté parce que il a des enfants qui sont maintenant plus que des adolescents, qui sont des jeunes adultes, en tout cas pour son fils. Ils ont leur vie, ils ont droit à une vie privée. Ils n'ont pas tellement besoin qu'on raconte.
Pour ça que je vous parle d'un complément posthume. Si
oui, mais je sais pas si ça avait ça interférait énormément avec sa création. Ça vaudrait peut-être le coup de l'analyser et d'aller plus loin. Je ne crois pas que ça interfère tellement, puisque cette dernière période, justement, il écrit peu de textes importants, les 15 dernières années, en gros, là où là, ces enfants qui sont jeunes. Donc, non, moi, je n'ai pas envie d'aller trop loin et pas envie de blesser.
Est-ce que Ferré surtout n'est pas piégé par ce qu'il dénonçait lui-même, c'est-à-dire le droit des familles, des artistes peut-être à tailler dans la connaissance de la vie et de l'œuvre une fois qu'ils sont décédés et qu'ils ont des héritiers, quoi. Il a
la contre. Oui, je sais pas si c'est le sens de votre question, mais je crois qu'il aurait pas aimé qu'on raconte sa vie comme ça dans le détail, hein. Mais bon, moi je suis passé outre, Dieu sait si je l'aime et Dieu sait s'il a compté pour moi, hein. Si j'écris ce bouquin, c'est parce que je considère que c'est l'artiste de ma vie, c'est un type qui m'a façonné, qui m'a accompagné. Je lui dois énormément, on l'aura compris, je crois. Mais pour autant, oui, il n'aurait pas aimé qu'on fasse ce travail. Moi, je me suis autorisé à le faire et je ne le regrette pas, j'assume tout à fait. Et je pense que je lui fais malgré tout un beau cadeau aussi, parce que on parle jamais assez des poètes et des musiciens, on dit jamais assez la beauté de leurs œuvres. Donc voilà, moi je persiste, je signe sur ce plan-là. Hein. Mais sur sa vie privée, là, ses rencontres avec son dernier époux, je veux pas avoir l'air de me défiler. Ça pourrait, encore que tout le monde comprend comment s'est produit leur rencontre, etc. Mais ça pourrait blesser et sans rien apporter tellement au lecteur et sans rien apporter surtout dans le la lecture de son œuvre. L'intérêt, à mon avis, d'une biographie, c'est de voir les interférences de la vie et de l'œuvre. Et là, chez Ferré, elles se répondent constamment. Non seulement elles se répondent, mais c'est le seul chanteur, auteur, compositeur, interprète, à mettre à ce point sa vie dans son œuvre.
Oui, en même temps, on aura plus le temps d'en parler, mais il manquait pas de contradiction. Quand je vois un couple dans la rue,
je change de trottoir. Oui, mais je le souligne, ça, vous l'avez vu. Et il se marie quelque temps après. Moi, je fais une interview de lui à Lyon, à l'Hôtel des Artistes, en 73. Il me dit, il me tient un discours sur ce thème-là. Te marie pas, un couple, faut pas, le couple faut pas, c'est les pantoufles, c'est l'horreur et tout. Quelques mois après, il se marie. Et il a déjà fait un enfant. Son fils Mathieu est né en 70 et il l'a caché jusque-là. Quoi.
C'est un sentiment de jalousie très fort chez lui.
C'est compliqué. C'est effectivement, il est complètement en contradiction avec ses propos. Quoi. Mais d'un autre côté, il a un fils, il ne va pas l'abandonner. Il l'aime, je pense. Donc il s'arrange, c'est ça. C'est un paradoxe ambulant, hein, ce type.
Oui, c'était le but, c'était d'éclairer un peu
sous tous les angles. C'est un paradoxe ambulant, mais c'est un créateur transcendant.
Bien, il nous reste à vous remercier. On va écouter quelques notes de Ni Dieu ni Maître pour terminer cette émission, puisqu'on a déjà passé notre temps.
Oui, on était très bavard.
Merci donc, Robert Belleret. Votre livre, je rappelle, Une vie d'artiste par Léo Ferré aux éditions Actes Sud. Le prix, je ne l'ai pas, c'est autour des 180 balles, mais c'est un énorme bouquin et très intéressant.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'en peut être ni Dieu ni mère.
C'était Bistamplac, une émission pour la chanson poétique et d'expression. Bistamplac, une émission de Radio Canus en 2.2 MHz, animée par Jean-Pierre qui vous dit bonsoir et qui vous donne rendez-vous pour un autre Bistamplac lundi prochain à 20h.
Viens, je t'emmène en voyage du côté des nuages, du côté des mirages. Loin, loin de tous ces sauvages et de leur marécage où s'enlise ton âge. Mais garde au fond de ta mémoire ce petit abreuvoir où tes chevaux vont boire. Mais surtout n'oublie pas l'envers. Marge des grimoires. Hey. Dans ce monde de frimes, où tu pointes, où tu trimes, ta vie à quoi elle rime? Dans cette rumeur fétide, dans l'ennui servile